Bienvenue à la causeuse rétrospective de l'année 2016 de Divan Quest.
Ben ouais!
Vous le savez pas, là? Ben là, vous allez savoir.
Vous allez savoir.
Mais on a... C'est le dernier épisode, en fait, qu'on enregistre pour notre période de convalescence. De début 2017.
Rémission.
En fait, on va être en rémission de tout ce qu'on vient d'enregistrer. Vous allez voir, pendant le reste du mois, dans les épisodes qu'on va vous offrir, on a un quiz avec un invité spécial.
Ben ouais!
On a une rétrospective de Rogue One. Mm-hmm. On a un autre épisode, segment sur des jeux peu connus. En fait, on couvre Game Boy Color, Game Boy Advance et Nintendo DS. Et on finit tout ça avec un survol des jeux mobiles qui nous ont marqués à travers les années.
Oui, puis une discussion intéressante sur qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas à notre avis là-dedans.
Mm-hmm. Ouais.
Puis on va être de plus en plus cohérent.
C'est ça.
Exact. En fait, c'est
mais
ça.
Pas Dan. Dan, c'est correct.
Non, mais vous savez comment que c'est, là. Le temps des fêtes, là, t'as des parties, puis là, c'est complètement chaud, là. Sauf Dan, bien sûr, parce qu'il est enseignant, ça leur arrive pas. Je le réexpliquerai plus tard, genre dans 5 semaines. Et après ça, on se tranquillise, puis là, comme ça, on est rendu sub à la fin janvier, on est prêt à revenir pour un épisode régulier au début de février.
Ouais.
Alors, commençons notre rétrospective de 2016. Comprendra Joe la semaine prochaine. Alors, Jeff, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre deux nouvelles, chacun, qu'on a trouvées intéressantes ou qui représentent ce qui s'est passé en 2016, un petit peu, finalement. Vas-y, ta première nouvelle, Jeff.
Mais j'étais plus large chez des nouvelles. J'étais dans quelque chose qui a marqué l'année, selon moi, là, un petit peu plus large. Puis pour moi, ce qui m'a marqué en premier cette année, c'est le retour en force des FPS, donc des jeux de tir à la première personne. Exactement. Donc, ils nous ont jamais quittés. Ils ont plutôt été réitérés année après année après année avec The Call of Duty, Battlefield, et on peut toutes les nommer. Là. Mm-hmm. Mais je pense qu'on peut dire que la qualité n'était plus vraiment au rendez-vous. C'était rendu une formule itérative qui...
C'était du pareil au même à répétition.
Puis qui misait énormément sur le mode en ligne, le mode multijoueur. Donc, si la formule annuelle, elle n'a pas vraiment changé, ben au moins, il y a beaucoup d'FPS cette année qui ont attiré l'attention. Ça a commencé avec Doom en mai, qui a ramené un petit peu là, au goût du jour tous ces vieux shooters-là, puis cette vieille mentalité-là.
Que tu peux tirer sans être obligé de viser en pesant sur le piton droit de la souris. Là.
Ouais.
Que tu peux tirer à vue, puis c'est legit dans un jeu de tir. Là. Ouais, ouais.
Okay. Fait que dans le même ordre d'idée de Doom, que tu peux tirer sans viser, mais dans le même mois, on a le droit à Overwatch.
J'ai pas le drop proche.
Mais qui a ramené un aspect un petit peu différent là, au shooting en ligne. Évidemment, Blizzard s'en est mêlé, donc on viendra avoir un nouveau standard du shooter online.
Ouais. Ils font ça,
eux autres. Mais
oui, quand même.
On a eu droit à des versions un petit peu plus jeu de rôle des shooters avec un Deus Ex Mankind Revolution qui est arrivé. On a eu droit un petit peu plus tard à Call of Duty Infinite Warfare.
Ouais.
Et là, je pense que c'est le début des gros changements où on a nos campagnes qui sont itératives là, d'année en année. On a le même jeu qui nous est. Il change de setting, il met de plus en plus de technologie. Puis ben là, on arrive avec une campagne solo qui a quelque chose à dire, qui est passablement intéressante. Ouais. Puis qui, pour une fois, on se débarrasse pas en mettant de côté.
C'est ça. C'est une campagne solo qui à elle seule vaut la peine d'acheter le jeu pour y jouer si t'es pas un fan de multijoueur.
C'est ça, j'ai failli mettre dans mes nouvelles, ça a pas été mes proches, que je mette le retour des campagnes solo dans les FPS, parce que justement Doom, justement Infinite Warfare, Battlefield 1...
Ben là, t'as spoilé, mais la suite de mon...
Ben c'est fait.
Battlefield 1,
ouais.
Qui, même chose, qui revient une campagne dans des jeux, ça fait longtemps que les campagnes sont de seconde main, on va se
dire. En
fait,
dans Battlefield, ils ont toujours été.
Mm-hmm.
Et moi, quand on l'a introduit, c'était toujours juste pour complémenter le produit.
Ouais, on peut même pousser la note plus loin. On va ramener Titanfall 2.
Yes.
Pour un jeu qui n'avait pas de campagne solo. Là, on en a ajouté une. Puis
le jeu qui n'en avait pas a la meilleure campagne solo de l'année.
Titanfall, le jeu qui est complètement le contraire de Midget Rise.
Exact. J'ai hâte à Midget Rise. Ça va être... ça promet.
C'est le prequel.
Les titans étaient tout petits.
On a aussi des franchises qui reviennent sur nos deux sexes. Mankind Revolution qui est revenu, mais on a Dishonored qui, certains vont dire que c'est pas un first person shooter, c'est un stealth game dans l'esprit de Thief et tout ça, mais bon, ça reste un jeu de première personne, puis tu peux tirer. pour moi, ça rentre dans les first-person shooters.
C'est un gars qui se fait pas chier avec les définitions, Jeff.
Tu sais, ce qui est intéressant dans tout ça, là, c'est que tu parles d'un paquet de jeux, tu reviens sur le fait que les campagnes solo, c'est super important, super intéressant, puis c'est ce qui fait que ça va aller chercher certaines personnes. Puis à l'opposé, un des plus gros shooters de 2016, c'est Overwatch, qu'est-ce qu'il n'y en a pas une maudite. Puis que la majorité des joueurs, la majorité des fans de Blizzard, qui sont des fans d'histoire, parce que dans tous les autres jeux, il y a quand même une histoire intéressante, puis là, ils sont comme, je veux ma campagne solo, puis c'est comme, Blizzard.
Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Ok, vas-y.
Parce que chacun des personnages ont tellement de personnalité, puis ils ont chacun leur petite histoire, puis il y en a une narrative, là.
Je dis pas qu'il y a une narrative, that's it, mais tu la joues pas, c'est juste ça.
Exact. Exactement.
Il y a quelques vidéos qu'il y a eu en ligne. Mais t'as joué pas. T'as raison, il n'y a pas de campagne solo.
Il y a de l'histoire, il y en a en tas. Il y a une solide narrative avec les comics. Mais
qui ne sert absolument rien.
Ouais. Mais pour les autres jeux, si on prend un Battlefield.
Ouais, ça ne sert à rien.
Ça suffit, les enfants?
Hey.
Là, vous êtes en train de hijacker ma nouvelle. Mais si on prend Battlefield, si on prend Call of Duty, Titanfall, on dit souvent que les mécaniques, c'est assez pour supporter un bon jeu. Puis je pense que les FPS, c'est un jeu où il s'est basé sur ses mécaniques pour survivre pendant des années et des années. Puis maintenant, on fait comme, il y a peut-être autre chose que des mécaniques dans un FPS.
En fait, ils se sont reposés sur leur multijoueur pendant des années.
Oui. Mais c'est quelque chose qu'on connaît et qui t'a beau le réinventer, tu le réinventes pas tant que ça. Ça reste la glorification du headshot.
Mm-hmm.
Tandis que là, on a avec des jeux comme Battlefield 1, Titanfall 2, Call of Duty Infinite Warfare, pour moi, c'est les développeurs qui se sont dit on a besoin d'agrandir notre public, puis on va aller chercher l'autre public qui n'a pas le temps d'investir des heures et des heures à apprendre les maps, puis les perks, puis à se monter des personnages, puis à devenir compétitif, puis qui veut jouer une fois de temps en temps. Fait qu'on va lui faire des campagnes solo, mais on va les rendre intéressantes. Puis quand tu regardes, on parle. Les trois campagnes, là, pour les trois jeux, c'est un style d'écriture qui est direct. Il n'y a pas de la grande narration. C'est des histoires qui sont... OK, c'est pas la plus grande histoire au monde, mais c'est une histoire qui est décente. Et c'est des thèmes plus matures.
Mm-hmm.
Fait que on sort un petit peu des moins juvéniles. Et,
on traite beaucoup des sujets que les films de guerre traitent.
Ouais, puis c'est... Du moins pour Battlefield puis Call of Duty, c'est épisodique. C'est sous la forme de missions ou de petits épisodes que tu peux faire. Donc, tu peux t'asseoir, jouer 20 minutes, faire une partie d'histoire, arrêter. Il y a un point où tu peux arrêter.
Ou, quand Matt nous parlait d'Infinite Warfare, t'asseoir en disant « je vais jouer 20 minutes », t'as relevé 2 heures plus tard.
Ouais. mais tu sais, tout ce que t'as décrit justement comme public qui doivent aller chercher en faisant ça, je suis là, puis j'ai été là. Puis je me demande à quel point aussi s'il n'y a pas eu un peu une crainte d'Overwatch.
Peut-être.
Blizzard rentre dans le marché, tu le sais, c'est quoi le résultat. Fait à moins de répondre directement en clonant leur formule, qui a comme pas mal toujours été la recette, là, tu vas te battre contre Blizzard, puis ça n'a jamais été un gage de succès. Fait que peut-être que d'offrir de quoi de plus à ton produit que celui de Blizzard n'offrira pas,
oui,
c'est une bonne solution.
Le peu de reproches qu'on voyait par rapport à Overwatch était, c'est qu'il n'y a pas de campagne solo, fait qu'ils font du bagarre. Mm. On va en ramener une, puis on va en ramener une solide. C'est un peu...
Oui. Donc, tu sais, je parle souvent du respect du temps, puis tout ça, des jeux en ligne. Je joue beaucoup en ligne, mais je joue aux jeux qui ne me demandent pas de leveler ou de monter des choses parce que je peux jouer rapidement. Mais ça, c'est des jeux pour lesquels je vais peut-être m'investir dans la campagne parce que c'est facile de le faire, puis ça respecte mon temps. Donc, il est 2016, le retour des first-person shooters.
Puis,
c'est pour tout le monde.
Et voilà, je suis de retour dans les first-person shooters après des années à cause que...
Je pense que ça, c'est un statement.
Exactement. Ah oui, mauditement, là, j'ai eu un fuck. Puis comme je vais dire, quand on parlait de cinéma avec Rogue One, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué à un FPS, ça en prend pas gros pour me contenter. Je suis un bon candidat à ton produit. Tant qu'il est d'une qualité suffisante, je suis là. Voilà.
Sinon, Dan?
Ben oui, moi, je vous parle du côté de nostalgie, si on veut, de World of Warcraft avec les... l'arrivée sur l'avant-scène des serveurs pirates, des... Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Qui, dans le fond, on a entendu parler cette année de Nostalrius. T'sais. Dans le fond, c'est pas récent là, qu'il y a des serveurs pirates de World of Warcraft. Là. Il y en a tout le temps eu. Moi, pour vrai, les premières fois que j'ai joué, c'était là-dessus. Avant de faire comme, il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas, j'ai pas le contenu récent, je vais m'abonner, puis je joue assez pour que ça vaille la peine. Puis, en fait, ce qui... ce qu'on a vu arriver cette année, c'est un serveur pirate, oui, mais qui se publicise en disant « ben nous, on offre l'expérience de jeu qu'on pouvait jouer quand le jeu n'avait pas encore eu d'expansion. L'expérience classique de World of Warcraft. »
Puis là, Blizzard a comme pas eu le choix. d'acknowledger, de reconnaître l'existence ben, de cette demande-là.
En fait, c'est que les serveurs étaient devenus quand même très, très gros. Il y avait une grosse population. Fait que là, comme ça s'est déjà passé avec d'autres affaires, Blizzard a envoyé une notice pour dire ben vous arrêtez ça, vous n'avez pas le droit, c'est pas votre propriété. C'est comme c'est arrivé à plein d'autres serveurs privés là, qui ont eu une certaine notoriété là, dans d'autres années. Mais là, ce qui a fait que ça a pris plus de place à l'avant-scène, c'est que les gens, en fait, mais on joue ici pas pour pas payer WoW, on le paye de toute façon. On joue ici pour avoir cette expérience-là que WoW nous offre pas, puis refuse depuis des années de nous offrir, même si on le demande. Après ça, on peut avoir des grosses discussions sur si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire, mais ça a amené une discussion. Les gars de Nostalria sont allés à rencontrer les gars de Blizzard, puis on n'a pas entendu parler pendant un certain temps, jusqu'à ce que tout récemment, les gars de Nostalria se fassent « ben, il s'est rien passé, on relâche dans le... » dans les interpiou-piou web, notre code source de nos serveurs. Puis que récemment, tout récemment, il y a de nouveaux serveurs qui sont sortis avec leur technologie de Nostalrius. Les serveurs font une fusion avec un autre truc, Elysium. Puis ben dans les premières journées, les serveurs étaient bustés, il y avait trop de monde.
C'est vrai?
Ben oui, il n'était pas capable d'avoir le load que ça demandait parce que le fait que ça avait été discuté puis qu'il en avait parlé beaucoup partout. Bref, c'est quand même intéressant de voir ça. Est-ce que le jeu est si bon que ça? Moi, je suis persuadé que non. J'ai pas encore joué. Je vais peut-être aller faire un tour à un moment donné. Là, il me reste encore une semaine de congé. Peut-être en profiter pour aller faire un tour, voir ça a l'air de quoi. Mais je suis persuadé que je resterai pas là longtemps parce que j'ai pas le temps à mettre dans le jeu qui était World of Warcraft en 2006. Genre.
Mm-hmm. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose à dire puis on en fera un sujet pour un autre épisode peut-être là, au retour, là. Mais il y a quelque chose à dire sur la différence entre les marchés où tu prends un marché comme les jeux vidéo où les consommateurs vont dicter le contenu du marché souvent, puis tu prends le marché par exemple des téléphones cellulaires comme Apple où Apple dicte le contenu que les consommateurs vont consommer.
Ben, Blizzard le fait parce que Blizzard a la confiance des consommateurs,
ouais.
Mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix, puis que tu peux juste pas obtenir en bas genre de 20 ans d'investissement dans des produits impeccables. T'sais. C'est pas quelque chose qui est facile à avoir. Mais t'as raison. Overall, t'as mauditement raison.
Mais je suis persuadé que Blizzard a raison de faire ça parce qu'à quelque part, ils savent que le monde va aller faire un tour, va jouer un peu, puis ils vont pas rester nécessairement parce que c'est pas l'expérience. C'est pas une expérience de jeu qui est faite pour 2016. C'est une expérience de jeu qui était faite pour révolutionner les MMO quand ils sont sortis puis qui ont comme fait « Hey, nous, on a un MMO, gang, puis au lieu de grinder sur des monstres pendant des heures, vous avez des quêtes à faire. » Mais tout ça pour dire que je suis pas sûr que ça serait une si bonne idée d'avoir des serveurs de ce genre-là pour vrai, parce que ça serait beaucoup de travail, d'infrastructure puis de dépenses pour une compagnie qui, à quelque part, reste une compagnie. Là. Mais c'est intéressant de voir qu'à quelque part, les joueurs font comme « ben nous, on va se le faire nous-mêmes ». Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer là, si ce nouveau serveur-là va avoir un autre takedown. Puis si ça se produit, ce qui va se passer, c'est que ça va juste comme migrer à chaque fois, parce qu'ils ont les technologies pour migrer les comptes. Parce que c'est ce qui s'est passé, là. Tu te crées un compte sur le nouveau serveur, tu as une place, tu peux cliquer puis migrer ton ancien compte. Ils ont la base de données. Hein. Fait que, tu sais, s'il arrive quelque chose, ils vont faire la même chose. Ils vont exporter leur base de données. Puis, tu sais, ça...
Ben, moi, cette nouvelle-là, de la façon que je l'ai vue, toute cette histoire-là, c'est plus une question de la préservation des jeux vidéo.
Aussi.
Puis Blizzard, je les trouve un petit peu à revers là-dessus. Ouais. Ils ont raison pour leur produit. Ils ont raison pour ce que tu vends, ce que le monde paye, l'expérience qu'ils vont avoir comme jeu, sauf que tu fais disparaître l'histoire du jeu, t'as rends complètement indisponible, puis ça, c'est un peu plus compliqué. Puis ça, je suis moins en faveur de ça. Mais ça,
Je suis bien d'accord.
Mais la question est super valide, puis j'espère justement que les serveurs privés vont continuer à mettre ça de l'avant, puis aller forcer à répondre à cette question.
Moi, je porterai jamais un serveur privé qui essaie de faire d'émuler la dernière version du jeu, parce que à quelque part, ben un, ça marche jamais très bien, puis ben là, c'est plus la même affaire, c'est plus la même game. Mais serveur privé qui me dit « je t'offre une expérience de quelque chose que tu peux pas vivre avec les serveurs officiels », OK, ouais.
Exact, c'est ça. C'est le même côté que les Abandonware, c'est de me dire.
Ouais, c'est ça.
C'est que tu dis « ben gars, il n'y a plus personne qui l'offre cette expérience-là, fait qu'il y a où le mal à te l'offrir? J'enlève pas d'argent à personne, il n'y a plus personne qui t'offre ce produit-là. »
On est assez loin de cette version-là. Il y a une personne qui va dire « bon, allez jouer sur serveur privé gratuit à place de jouer sur Blizzard parce que c'est gratuit. » Non, c'est une autre expérience. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, s'ils ne jouent pas aux deux, c'est parce qu'ils ne veulent pas jouer au nouveau, pas juste parce qu'il faut le payer. Ce n'est pas la même chose que les serveurs privés dans le temps que j'ai commencé à jouer, où c'était quelques
patchs en retard. Il y en a quand même.
Oui, il y en a sûrement quand même, mais ce n'est pas ceux-là qui ont la notoriété et de la publicité non plus.
Mais c'est vrai que je ne vois pas un joueur abandonner son nouveau compte pour aller sur un serveur.
Non, mais c'est ça le problème que Blizzard a présentement, c'est de dire qu'ils ne veulent pas approuver ça parce que ça reste du piratage, fait que les gamins ne peuvent pas se mettre derrière ça. Parce que tu sais, il pourrait dire, OK, le monde, pour se loguer sur ton serveur, il faut qu'il y ait un compte avec nous autres. Il pourrait faire une espèce de passerelle comme ça. Sauf qu'ils sont pas responsables du contenu de l'autre côté. Fait qu'ils veulent pas se porter garant de ça.
Ben, c'est ça aussi.
Fait que là, on est dans une espèce de vide où est-ce que si Blizzard n'offre pas une solution officielle, ils sont obligés de dire que c'est illégal puis de bloquer ça. Il n'y a pas une bonne position pour eux autres. Il n'y en a juste pas. Mmh.
Fait que c'est une des nouvelles moi, que j'ai le plus regardé puis suivi aussi là, après les annonces qu'il y a eu des rencontres. Puis ça, j'ai regardé beaucoup les Reddit, y a-tu de quoi de nouveau sur Twitter, nanana, puis il se passait rien. Mais c'est rare qu'une nouvelle, je vais suivre un peu ce qui va en retomber là, à part de juste « OK, la nouvelle est faite, c'est fini. » J'attendais de voir ce qui allait se passer. Fait que j'étais comme content de voir qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Même si ce que c'était « Ben, on n'a pas une nouvelle, fait que voilà notre code source puis faites-en ce que vous voulez.
» Ah ben, c'est une façon de forcer la main.
Ben, c'était ce qu'ils disaient au début. Puis c'était ce qu'ils étaient supposés de faire. Puis qu'ils ont décidé d'arrêter de faire parce que Blizzard les a rencontrés. Là, mm-hmm. Voilà. Fait que ça ressemble à ça. Toi, Matt?
Ben, premièrement, moi, ce qui m'a le plus marqué, évidemment, en 2016, puis parce que c'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est toute la façon que Nintendo a fait ses annonces. Puis comment qu'ils ont... ben, exactement, tu sais. Puis c'est à deux tranchants, justement. Nintendo, cette année, là, dans le fond, pour faire le topo, ils nous ont annoncé Super Mario Run, qui est finalement sorti sur iOS. Ils nous ont annoncé... En fait, ils ont mis le premier trailer de la Switch. Puis c'est pas mal, ça. Ah, puis la NES Mini, excusez. La NES Classic Edition, la toute petite Nintendo. Puis, étrangement, cette année, Nintendo a agi comme ils ont toujours agi. Il n'y a rien de nouveau dans ce que Nintendo a fait cette année. C'est-à-dire qu'ils contrôlent leur message à un niveau borderline orwellien. Là. mais soudainement, cette année, les fans en ont assez. Ils ont fait comme ce qu'ils ont toujours fait. Ça a jamais, y a rien qui a changé. La méthode Nintendo est toujours la même. Mais cette année, les fans en ont eu assez. Peut-être que c'est un peu l'écart en titre de la Wii U, qui a été un peu un échec, même si Nintendo a toujours offert des bons jeux sur cette plateforme-là. Mais overall, la console est considérée comme un échec par bon, le public. Là. Mais le fait que tout le monde...
Le département des ventes aussi.
Forcément, forcément. Puis justement, à travers tout ça, en sachant que Nintendo nous ont dit que la Switch sortait en mars l'année prochaine. Ça, on le savait depuis le début. On n'avait aucune information sur la console qui, à cette époque-là, n'était même pas encore la Switch. On était toujours en attente de Nintendo. Mais les fans voulaient tellement d'informations qu'ils s'en sont mis à fucking détester Nintendo.
Ouais.
Puis ça servirait contre eux autres, mais d'un œil là, rationnel, il n'y a aucune logique à ça. Je pense que en rétrospect, dans un an, tout ça, ça va être de la complète bullshit. Mais l'année a quand même été marquée par une grogne envers Nintendo. Qui ont mal communiqué, pas la Switch, ils n'ont pas mal communiqué, mais ils ont mal communiqué la NES Classic Edition.
Ouais.
Qu'ils ont tout présenté ce que le produit, ils l'ont montré en profondeur, ils l'ont envoyé dans pour des reviews dans des journaux. Mais la disponibilité, ils ont fait un gros buzz, puis ils l'ont rendu excessivement difficile à avoir, probablement par design, si on connaît la méthode de Nintendo.
Ben c'est ça, ça a souvent été le cas pour un paquet d'affaires de Nintendo. Là.
Exact. Puis ça n'a jamais été une mauvaise idée. Ils ont sauvé les jeux vidéo des années 80 avec ça. Sauf que ça sonne un petit peu comme... j'ai juste tone deaf comme expression. Ouais. Mais pas à l'affût de ce qui se fait comme façon de mettre ça en marché.
Il y a un dicton qui dit « Ce qui t'a mené jusqu'ici, t'amènera pas là-bas. »
Ah,
ouais. Mm-hmm. What got you here won't get you there.
Sauf que la NES Classic Edition a été un sujet de discussion pendant tout le mois de décembre.
Mais c'est ça, puis ça va plus loin que ça, c'est que adresse-toi à un public de joueurs, un public de gamers, un public qui ont tout le temps été avec Nintendo, qui ont suivi les dernières sorties. Tu sais, on est un peu plus philosophe, je pense, en général. Là. On peut pas généraliser sur ça sans dire ben c'est un peu tout le temps de même. Mais adresse-toi à monsieur, madame, tout le monde qui ont vu passer ça à TVA Nouvelles, puis qui ont dit « Ah, il ressort une NES, c'est le fun, c'est comme quand t'es jeune. Ça, on va pouvoir acheter ça pour Noël. » Puis là, il arrive au magasin, puis dit « Ben non, monsieur, il fallait arriver ici à 4h du matin, puis c'est juste les 12 premiers qui en ont eu une. »
Mais je voulais pas qu'on parle juste là-dessus.
Non, mais tu sais...
Mais c'est ça, mais t'as 100% raison.
Je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça a l'air pire.
Parce que la NES Mini visait... Oui, les fans se sont accrochés après l'idée, mais c'était pas eux autres le public cible. Parce que bon, les fans de rétro ont leur vieille console. Fait que là, tu présentes un produit qui intéresse un peu tout le monde, puis il est impossible à avoir comme ce que tu sers à tes fans qui sont prêts à se battre pour avoir un produit. Puis là, soudainement, ben, il y a plein de monde qui s'en sac, qui sont obligés de se battre pour avoir un produit, puis là, ben, tu perds de ce côté-là, je pense qu'ils perdent des ventes.
Ouais.
Mais encore une fois, c'est pas ça le point. Le point, c'est la communication qu'ils ont eue, que là, ils ont créé un buzz énorme pour un produit. Le buzz se maintient parce qu'il est impossible à avoir, mais c'est en fait qu'ils ont vendu comme 200 000 unités. Puis après ça, justement, la Switch, jusqu'au trailer de la Switch, on l'a su la veille qu'elle allait avoir le trailer de la Switch. il n'y a eu aucun... C'est Media Blackout, ça, Switch. Il n'y a eu aucune information à part cette vidéo-là. Ultimement, moi, je suis sûr que c'est une bonne idée. Je suis sûr que c'est quelque chose qui va leur rapporter.
Mais y a-tu été analysé en détail, cette vidéo-là? Mais
c'est ça. Sauf que, justement, cette grogne-là de ton noyau, dans le reste du monde, c'est de la bonne analyse, c'est du bon buzz. Sauf que ton noyau est frustré, mais ton noyau a tellement la mémoire courte que t'as pas le choix, à un moment donné, de passer à autre chose. T'sais.
Ils vont lâcher pareil.
Exactement, c'est ça. Fait que on dirait que soit que Nintendo ont finalement compris quelque chose que les autres compagnies se battent à contrôler, mais ça fait que Nintendo, à travers toutes leurs annonces, la Switch, Super Mario Run, en le mettant seulement sur iOS, puis la NES Mini, ils ont attiré beaucoup, beaucoup de grogne, mais ultimement, leurs actions sont plus élevées qu'au début de l'année.
Oui, oui. Mais tu sais, je sais pas. En tout cas, Mario Run, je sais pas à quel point c'était un si bon...
Ah non, je pense que c'est leur plus faible move dans les trois, là.
Oui, parce que, mettons, moi, j'ai un Android.
Mais ça va venir. Il va sortir.
Je sais, mais c'est pas ça le point. Pas moi, parce que je suis assez à l'affût, mais mettons quelqu'un d'autre qui a un Android, qui l'aurait peut-être acheté la journée qui est sortie, qui l'aurait peut-être payé la journée qui est sortie, puis là, avec les reviews, qui fait comme, ah, peut-être que j'achèterai pas finalement, puis là, le buzz tombe. En tout cas, tu sais, j'achète pas, game. Mais c'est peut-être... Parce que le monde mobile, Nintendo sont pas très bons dans l'univers mobile.
Je pense que le deal devait valoir la peine.
On se rappellera de Mitomo, là. Ouais.
Mais je pense que le deal avec Apple devait valoir la peine.
J'imagine. Mais parlant de la Switch, par exemple, il a quand même sorti du bon du trailer de la Switch.
Il a sorti Karen. Enfin, malheureusement, Karen. J'ai pas le thème au bout des doigts, mais on va toujours se rappeler de Karen. Jeff, ta deuxième nouvelle?
Mais pour moi aussi, de 2016, ça a été un petit peu l'année où, enfin, la réalité virtuelle est devenue accessible au grand public. Accessible à tous avec la sortie le 13 octobre dernier du PlayStation VR. Donc, tout le monde peut maintenant expérimenter la réalité virtuelle de façon plus ou moins abordable. Si 700$, c'est abordable, là, mais ouais, plus ou moins abordable. C'est abordable. Ça. On n'a pas besoin d'investir dans un ordinateur de gamer, tout ça. Si on a un PlayStation, on peut faire du VR pour le headset, finalement, ce qui n'est pas suffisant quand on parle du Oculus Rift ou du HTC Vive, où on a besoin d'une machine à 2000$ aussi. Mais je pense que pour moi, là, de cette année, ce qui est une des plus grandes victoires, c'est que le fait que le terme « réalité virtuelle », ben, c'est une expression populaire et qui fait partie du paysage des consommateurs techno normal maintenant. C'est plus de la science-fiction. Pour nous, c'est un rêve. On a lu là-dessus, on a pensé, on a rêvé là-dessus. Puis ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là. C'est une expression qui était assez commune pour que tout le monde le prend. Je peux en parler avec mes grands-parents, puis on fait « Ah, oh, j'ai vu ça des nouvelles. »
Ouais, l'affaire avec le casque.
C'est ça, tout le monde sait que ça existe. C'est plus rendu quelque chose d'étrange. On est plus bizarre quand on en parle.
Ça a changé depuis le mois de mars, un peu.
Donc, c'est une technologie, quelque chose, c'est connu de tout le monde. Je pense que c'est là pour rester. On a beaucoup dit « Est-ce que c'est un fad? Est-ce que ça va disparaître? » Je pense que maintenant, on peut dire que non, c'est là pour rester. Ça va rester, puis ça va juste continuer à se développer. Puis ça va devenir une plateforme là, comme les autres qui vont prendre de plus en plus de place, en fait. Je pense que les années qui s'en viennent risquent d'être super intéressantes avec tous les développements de technologie. On risque d'en parler un jour, que c'est des choses qu'on pitch, c'est des idées qu'on pitch, puis il y en a certaines qui vont rester, comme des pickles.
Celle-là aussi, vous la comprendrez plus tard.
Mais je pense que quand on va voir quel pickle colle dans la fenêtre, ben, ça risque d'être intéressant parce qu'on va pouvoir enfin savoir où on s'en va avec ça.
Comme ce joke-là, on va savoir enfin où on s'en va avec ça plus tard.
Je pense que 2016, c'est un peu aussi la fin de la guerre entre les fervents de la Oculus Rift et les fervents du HTC Vive, surtout avec le lancement en mars. Avec le lancement en mars des Oculus Touch, donc les contrôleurs là, wireless de Oculus, le fameux Room VR, là, on peut faire la réalité virtuelle en se déplaçant. C'est rendu possible aussi sur l'autre plateforme. Donc, on peut
depuis
plus dire,
très, très peu.
Depuis là. Très, très peu, mais on peut plus dire que pour une des deux plateformes, c'est possible, pour l'autre, ça ne l'est pas. Puis si tu ne sais pas c'est quoi du Room VR, mais tu ne sais pas c'est quoi du vrai VR. Maintenant, tout le monde peut y participer. Puis la plupart des développeurs vont rendre leurs applications tranquillement pas vite disponibles sur les deux systèmes.
Mais je pense justement que 2017 va être un petit peu ça. Le côté Android versus Apple, où le Steam VR est une plateforme parfaitement ouverte. Ben, en tout cas, parfaitement ouverte au même titre qu'Android. Et de l'autre côté... On a Oculus avec son Walled Garden, exactement comme Apple. Sauf qu'il y a une faille entre les deux, mais en pratique, pour le consommateur moyen, je pense que c'est ça. La prochaine étape, là, ça va être de voir comment ça va se dérouler. Si Oculus va réussir son pari d'offrir quelque chose d'assez alléchant pour que le monde viennent de leur côté, même si ça les restreint dans leur choix, mais parce qu'ils ont un meilleur produit overall. C'est intéressant.
Mais je pense que si, si on met de côté les grosses compagnies qui possèdent ces noms-là, les gens qui œuvrent à développer ça, ils ont le souci, je pense, que ça soit ouvert. Puis que peu importe quel casque tu te mets sur la tête, tu puisses vivre leur expérience. Fait que je pense que ce souci-là ou cette envie-là de un peu démocratiser un petit peu la réalité virtuelle, j'ose espérer qu'en 2017, ça va porter fruit.
On va sûrement avoir l'occasion d'en parler. Dan?
Ouais, moi, j'ai ma petite nouvelle un peu plus éditoriale. Je trouve que 2016, ça a été l'année où j'espère qu'on a atteint le top ou les bas-fonds de la nouvelle dans les médias de masse, là. Avec des nouvelles qui ont aucune importance, des nouvelles qui sont pas utiles à personne. Mais en même temps, ça nous a donné peut-être un de nos plus beaux gags de l'année.
J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bibitte noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes couvertes. Je m'abris par la tête. Ça fait kaboum. Il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bibitte noire dans le salon.
Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton.
Fait que ouais, c'est bien drôle dans un podcast, mais je trouve que ça n'a pas sa place quand même éditoriale dans les médias.
C'est comme un sapin.
Un sapin pas beau.
J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un d'assez clever pour écrire des conneries comme ça, mais ça s'invente pas.
Fait que c'est ma deuxième nouvelle que j'ai identifiée. Pour moi, elle était importante en 2016. Matt?
Ben, je viens un petit peu, en fait, en contrepoint.
Genre parce que je pensais que t'allais en complément, puis je me demandais où tu t'en allais.
Ben, en même temps, dans le fond. Non, mais je pense que, justement, il y a... Tu sais, en 2016, si on arrête de s'accrocher à l'idée du nombre de célébrités qui sont décédées pendant 2016, c'est une année, justement, où est-ce qu'on a eu comme l'explosion des fausses nouvelles.
Oui, c'est impressionnant, puis troublant.
Puis, en même temps que ça, justement, on a eu du côté genre strictement Internet de la chose, parce que les fausses nouvelles, ça concerne pas juste Internet ou le public qui est pas vocal sur Internet, mais du côté d'Internet, comme on a eu un exemple avec No Man's Sky, c'est l'autre côté, là je parle pas juste de gaming, mais No Man's Sky est un bon exemple où l'Internet sont vocales, mais sont pas pertinents. C'est le moment où est-ce que les... Non, mais
je viens de découvrir ça.
Non, mais je pense qu'on a vraiment atteint un moment où il y a un problème où on se sent en droit de critiquer chaque produit comme s'il nous appartenait.
Ouais.
Puis, c'est tellement rendu un mouvement populaire que toutes les compagnies se sentent obligées de réagir à ça. Puis, c'est un peu en écho justement à ce qu'on parlait d'Overwatch puis de la capacité que Blizzard ou Apple ont à faire un produit sans l'intervention du public. Toutes les autres compagnies, on dirait qu'elles sont un peu en proie à des demandes qui viennent... On le comprend toute l'idée de dire « Ah, il me semble que dans tel jeu, ce serait mieux si telle chose... » Ou « Dans tel film, ça aurait été mieux s'il avait fait telle chose... » Si tu regardes la quantité de monde qui travaille sur un produit, si tu regardes l'effort artistique, regarde strictement l'effort artistique, tu devrais automatiquement arrêter ton processus, ton commentaire. Fais-en une critique, commence pas à faire des demandes puis des menaces, mais c'est devenu le mot d'ordre en 2016. Puis c'est probablement l'accumulation de choses tout à fait légitimes comme on a eu avec le Gamergate puis des trucs comme ça où on a dû se rallier pour des causes, pour défendre des choses qui étaient problématiques. Puis que, vu que la masse populaire qui s'intéresse à ce sujet-là était sur Internet, on devait se rallier, puis c'était la place pour le faire. Tout est devenu une cause à se rallier, indépendamment de l'effort des gens qui y travaillent, de la vie personnelle, de la santé des gens qui y travaillent. C'est juste devenu... Tout est un combat. La moindre petite chose présentée sur l'espace public est plus que jamais, parce que ça l'était aussi avant, là, mais est plus que jamais... plus dans tes mains. Appartient à quelqu'un d'autre qui a peut-être donné 5$ pour le produit ou qui ne l'a même pas encore donné, mais qui sent que son veto, de ne pas mettre son 5$ là-dessus, c'est suffisant pour qu'il puisse faire couler de l'angle virtuelle à n'en plus finir sur ce sujet-là, comme une espèce de Don Quichotte attardé. Puis on est là. On est dans une espèce de situation où on dirait que la licence artistique appartient à tout le monde sauf celui qui l'a créé. Puis je trouve ça un petit peu désolant. Parce que laisser le monde se planter à sortir un jeu. Je sais que bon, dans ce cas-là, là, je ne suis pas trop No Man's Sky comme exemple, parce que bon, il y a des questions de PR, de vente et publicité. Mais juste en droit de ça, la grogne généralisée envers tous les produits qui ne sont pas à la hauteur de l'image mentale que les gens s'en font, c'est rendu ridicule. C'est rendu difficile d'apprécier quelque chose.
Ben, c'est ça, c'est rendu difficile aussi de dire ben moi, ce jeu-là, je l'ai aimé ou quelque chose comme ça. Tu vas te faire ramasser par un paquet de monde qui ont probablement même pas touché au jeu juste parce que c'est. C'est sexy d'être pas d'accord et d'être contre.
C'est la mort de la nuance, en fait.
Mais c'est ça.
C'est plus ça, le détail.
C'est beau, est-ce qu'on a oublié que... Ben, peu importe à quel... C'est quoi notre opinion sur le sujet, là? On reste dans un monde capitaliste, là. Puis ton vote, là, tu l'as avec ton portefeuille. Si le jeu t'intéresse pas, si tu penses qu'il est pas ton genre, achète-le pas, femme-la.
Puis ça s'arrête
puis
là.
Puis si tu l'as acheté, puis t'as été déçu, puis tu veux faire un review, fais un review, mais fais ça de façon critique et acceptable. Puis c'est tout. Les développeurs te doivent rien.
Mm-hmm. Puis ils ont peut-être fait le meilleur produit qu'ils pouvaient, puis c'est pas à la hauteur de tes attentes.
Mais je pense que des fois, peut-être les développeurs ou les entreprises derrière les produits vont avoir peur de l'opinion des internets, justement, parce que moi j'ai l'impression que beaucoup de gens qui vont se tenir sur internet vont mettre de côté leur esprit critique pour prendre l'opinion de la personne qui a écrit un texte, parce qu'il y a un texte qui a été écrit sur internet, ça doit être vrai, ça va devenir mon opinion. Donc j'ai pas moi-même une opinion moi-même où je prends pas le temps d'évaluer est-ce que c'est valable, cette opinion-là? J'en fais mon opinion au lieu de me faire moi-même ma propre opinion. Du coup, ces trolls-là ou ces enragés des internets, je sais pas comment on peut les appeler.
Tout ce qui est fait maintenant sous la bannière du trollisme, comme si c'était... Vu que ça a un nom, à cette heure, c'est comme légitime de le faire, puis c'est une joke, ben ça fait que tout le monde est vraiment excessivement méchant envers tout le monde.
Puis quand on connaît quelqu'un qui fait ça... On dirait que ces gens-là trouvent ça drôle, puis vivent comme ça. Ah, moi je fais ça, mais j'ai comme. Mais j'arrive pas à m'associer à toi ou à trouver que t'es pertinent ou que t'es drôle. Je trouve pas que t'es intelligent dans ce que tu fais. Tu fais juste causer des problèmes sans solution, sans questionnement, sans rien. Tu fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème.
Bref, promouvois ce que t'aimes, parle pas de ce que t'aimes pas.
Ouais, that's it.
Tu vas donner quelque chose à quelqu'un d'autre à apprécier aussi, plutôt que juste.
Explique pourquoi tu n'as pas aimé quelque chose.
Puis même à ça, j'ai tellement un temps limité à communiquer, que ce soit le podcast, que ce soit en personne, je vais bien plus arriver « Hey Jeff, j'ai joué à tel jeu, c'était écœurant, tu devrais essayer ça. » Je fais pas comme « Hey Jeff, j'ai joué à tel jeu, c'était de la merde, je joue pas à ça. » Non.
Mais c'est un peu le mot d'ordre qu'on s'est donné en commençant le podcast, c'est ce qu'on fait. Ouais. Bon, des fois, il y a des petits dérapages où est-ce que là, soit là, j'en parle de quelque chose qu'on n'a pas aimé ou on en rit un peu ou on fait un top des jeux cons, là. Mais en général, on va pas parler d'un jeu qu'on n'a pas aimé. On va plus essayer de trouver des trucs qu'on a aimés parce que c'est ce qui est intéressant.
Mais faire attention, je pense que les reviews négatives ont quand même leur place. Avant d'acheter un produit, je vais pas lire les 5 étoiles, je vais lire les 1 étoile. Pourquoi tu l'as pas aimé? T'sais? Mais je vais me faire une opinion à moi basée sur ce que les gens ont dit. Je vais pas prendre l'opinion de ce que les gens ont dit puis partir au bâton avec ça en disant c'est la vérité absolue.
Sauf qu'il y a une différence entre aller lire les critiques sur Métacritic dans la colonne à gauche, qui sont les journaux, les endroits publiés, entre guillemets, puis à droite, qui est juste le fiel déversé par tout le monde qui n'a pas acheté le jeu. Genre, le monde qui met un, là, le jeu vient de sortir, ça fait 2 minutes, la colonne de droite de Métacritic a genre 6001. C'est du monde qui aime juste pas le produit.
Ils ont clairement pas joué. Là.
Et non, exact. Puis,
il est en train de... C'est bien long, là, mon update est même pas fini.
Sauf que bref, je pense que 2016, justement, a été l'année où ce que plus que jamais, la façon que les médias sont construits, Métacritic est construit, on donne une visibilité, on donne une tribune à cette connerie humaine-là. Puis je pense pas que 2017 va être mieux, là. Mais je pense qu'on a comme cristallisé, malheureusement, l'espace donné à cette imbécilité-là. Puis je suis curieux justement de voir si on va trouver une façon de traverser la vapeur. Soyez pas surpris là, que des jeux comme Splatoon, quand tu joues en ligne, il n'y a pas de voice chat.
C'est pas pour rien. Hearthstone, pareil. C'est pas pour rien que tu peux pas chatter.
Parce que ça améliore pas ton expérience d'être en contact avec tout le monde qui est juste prêt à gâcher ta vie. T'sais. Voilà. Fait que c'était c'est dans un, comme deuxième.
On aurait dû finir avec ça.
J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bibitte noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes couvertes, je m'abris par la tête. Ça fait
que la boue
s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bibitte noire dans le salon.
Ça fait kaboum.
Écoute, j'accepte ça comme fin à 2016. Fait que, merci tout le monde d'être à l'écoute.
Ben oui, merci.
Puis écoutez nos élucubrations des prochaines semaines, car ça sera très, très inégal et espérons-le divertissant.
Et puis on se revoit officiellement en février.
Merci.
Salut.